Et cette année, j'ai pris un texte du livre de Éloi Leclerc, intitulé « Le royaume caché ». Alors peut-être aussi que c'est l'occasion pour la retraite, si on, de prendre aussi comme thème François et sa spiritualité et son message. Secrète résurrection. Secrète, la résurrection de Jésus l'est parce qu'elle s'accomplit sans témoin dans la nuit. Secrète, comme tous les grands commencements, comme les sources, comme l'acte créateur lui-même. Ce n'est pas l'éclat du plein midi, mais la pointe du jour, la lumière virginale de l'aube. Secrète résurrection, elle l'est aussi, parce qu'elle ne s'impose pas de l'extérieur, comme un événement que tout le monde peut voir et constater. Elle est un jaillissement de vie qui nous atteint par l'intérieur. La télévision aurait été là, elle n'aurait rien pu filmer de l'événement. Secrète résurrection, parce qu'elle est un mystère religieux, qui ne livre son secret qu'en révélant celui de la croix. La résurrection de Jésus n'est pas un simple retour à la vie, comme celle de Lazare. Le Seigneur ne revient pas à la vie d'avant sa passion, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'était pas mort. Il ne se laisse pas remettre dans le cadre familier d'autrefois. La résurrection n'est pas non plus la négation de la croix, une revanche sur la croix. Elle proclame, au contraire, avec force, que Dieu était avec le crucifié, puisque dans son abandon, la croix, loin d'être un échec, est le triomphe d'un amour plus fort que la mort. C'est pourquoi le ressuscité n'a rien d'autre à montrer que ses plaies. Il les montre comme la manifestation de la gloire de Dieu. Sans la croix, sans les plaies, nous pourrions parler de la gloire de Dieu, mais nous ne saurions pas ce que ce mot signifie. Car la gloire de Dieu, c'est la splendeur de son agapé. La résurrection de Jésus est la manifestation de cette gloire. Elle nous fait voir, dans le crucifié, la grande théophanie de l'histoire, la hauteur, la profondeur de l'amour divin. Mort et résurrection sont les deux faces d'un même mystère. Séparer la croix de la résurrection a été souvent les erreurs du passé. Et il ne faudrait pas aujourd'hui que nous tombions dans l'erreur inverse. On ne peut pas comprendre la résurrection du Christ en dehors de la croix. Au cœur même de la résurrection, il y a l'émergence du sens de la croix. Cette émergence est essentielle à l'expérience pascale. C'est elle qui transforme le scandale en mystère de vie et d'amour. Croire en la résurrection, c'est découvrir la croix glorieuse. Ni le tombeau vide, ni les apparitions du ressuscité n'eurent suffi à arracher les disciples à leur peur et au désespoir et à faire naître en eux la foi en la résurrection de Jésus. On le voit bien à leur première réaction. Les femmes, qui au matin de Pâques découvrent le tombeau ouvert et vide, s'écrient tout simplement « On a enlevé le Seigneur du tombeau. Nous ne savons pas où on l'a mis. On l'a enlevé. c'est la réaction toute naturelle. Pas un instant, la possibilité d'une résurrection n'effleure leur esprit. Et quand enfin, dans le jardin, Marie de Magdala reconnaît Jésus, elle ne l'accueille pas encore réellement comme un ressuscité. Sa première réaction, en effet, est de le retenir, de le remettre dans son cadre habituel, familier, rassurant, comme si, après un affreux cauchemar, elle le retrouvait soudain, sans plus, lui le Christ d'hier, lui qu'elle a connu et aimé. Les mêmes réactions se constatent chez les disciples d'Emmaüs. Ceux-ci reconnaissent et attestent les faits, le tombeau vide et les apparitions. Et cependant, ils ne croient pas encore. C'est que la résurrection du Seigneur n'est pas un fait qui s'impose de l'extérieur seulement. Et si les disciples ont cru finalement, s'ils ont vu et reconnu le ressuscité, c'est parce que Jésus leur a ouvert l'intelligence, leur a permis de surmonter le scandale de la croix en faisant émerger le sens à leurs yeux. Le récit de Luc, qui relate la manifestation du ressuscité aux disciples d'Emmaüs, a une valeur exemplaire pour la compréhension de l'expérience pascale. Il fait voir cette expérience à l'état naissant, à partir de la nuit de la désillusion et du doute. Et par là même, il nous découvre ce que fut la résurrection pour les premiers croyants. Peu à peu, en progressant sur la route, à travers les Écritures, l'inconnu révèle aux disciples le sens de sa mort. Mais l'émergence d'un tel sens ne saurait se réduire à une simple compréhension d'ordre intellectuel. Elle est une expérience de vie. Une expérience qui prend tout l'être en le touchant au cœur. Notre cœur, diront plus tard les disciples, n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis que nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures? La révélation du sens ne va pas sans une émotion profonde et neuve au contact d'une présence qui se donne à connaître de l'intérieur comme une plénitude de vie proprement créatrice. Ici apparaît en effet l'aspect créateur de l'expérience pascale. Les disciples s'étaient heurtés au non-sens de la mort de leur maître. Et ce non-sens les entraînait sur un chemin de dispersion. Ils fuyaient Jérusalem, où avait sombré leur espérance. Ils fuyaient aussi les autres disciples. Or, voici qu'à partir de cette situation de dispersion et de solitude, il leur est donné, au contact de l'inconnu qui les éclaire sur le sens de la mort de Jésus, de faire l'expérience d'une puissance de vie qui va les rassembler à nouveau à Jérusalem et créer entre eux une communauté nouvelle. Pour nous, nous vivons aujourd'hui un monde profondément marquée par l'incroyance. De plus en plus d'hommes et de femmes vivent pratiquement sans Dieu. Il a toujours existé un athéisme intellectuel et philosophique, mais qui était le fait d'une minorité. Mais l'incroyance massive dans laquelle nous baignons aujourd'hui a une autre signification. Elle ne se confond pas nécessairement avec l'indifférence ou le refus, elle exprime plutôt un constat douloureux, celui du silence et de l'absence de Dieu. L'homme de ce temps ne doute pas de l'existence de Dieu en elle-même, il doute que ce monde dans lequel il se trouve soit l'œuvre de Dieu. Un monde dur, violent, injuste, inhumain. Un monde tel qu'il est plus facile de croire aux démons que de croire en Dieu. Un monde où tout crie l'absence de Dieu. Les guerres, les camps de concentration, et aussi l'expérience quotidienne de la faim, de l'injustice, de la maladie et de la mort. Jadis, les peuples pieux plaçaient l'enfer dans l'au-delà. Aujourd'hui, l'homme en fait l'expérience en ce monde. Jadis, l'expérience de l'absence de Dieu était réservée à une élite, aux mystiques et aux saints. Aujourd'hui, elle est devenue le lot commun. Au regard de cette expérience, que signifie alors le message évangélique d'un Dieu amour? Dans la nuit de la mort où Dieu se tait, quelle lumière, quelle espérance apporte la bonne nouvelle au monde d'aujourd'hui? Le choc de cette question m'a conduit à relire les évangiles. Ma conclusion est que le message de Jésus s'adresse en premier lieu aux hommes qui vivent une telle situation d'abandon et d'éloignement. À condition, bien sûr, que son message soit présenté en ce qu'il a de proprement nouveau, non seulement comme une loi plus parfaite, mais avant tout comme la révélation ultime de Dieu au cœur même de tout ce qui crie son absence. La mort du Christ sur la croix a un sens inépuisable. Loin d'être extérieur à la dure réalité d'un monde sans Dieu, la bonne nouvelle de la proximité du royaume annoncée par Jésus se présente au contraire comme liée à l'expérience la plus crucifiante qu'un homme puisse faire du silence de Dieu. Et l'Évangile, c'est ce fait incontournable, énorme. L'homme qui a eu l'intuition la plus immédiate, la plus profonde de la proximité de Dieu et qui l'a annoncé le plus clairement au monde, c'est aussi celui qui a fait l'expérience la plus désolante de l'absence de Dieu et de l'abandon. Et c'est précisément par cette expérience qu'il a révélé au monde une proximité divine, indépassable et indestructible. Conscient et convaincu de l'amour de Dieu pour les hommes, Jésus n'a pas hésité, pour attester cette vérité, à s'engager sur le chemin, le long chemin sombre de la déréliction, faisant ainsi briller dans la nuit de l'absence, la splendeur de l'agapé. Par cette démarche, le silence de Dieu est devenu le lieu privilégié de sa révélation. En lui, Jésus, Dieu s'est approché de l'humanité d'une façon absolue. Il s'est communiqué à lui d'une manière si radicale que Jésus put lui dire « En vérité, Abba, Père ». C'est une expérience bouleversante au cœur du monothéisme. Le Dieu unique n'est pas solitaire. Il y a en lui une communication essentielle, éternelle, qui déborde dans le temps, d'une manière toute gratuite sur l'humanité, en la personne du Fils. Au plus profond de cette relation au Père, Jésus vit pleinement cette communication en laquelle il perçoit l'avenir de l'homme. Son être filial n'est-il pas l'annonce prophétique de ce que l'humanité tout entière est appelée à devenir par grâce ? Jésus est donc le messager de cette nouvelle proximité de Dieu. Une proximité inespérée, toute gracieuse, miséricordieuse, qui se porte vers l'homme éloigné de Dieu, l'homme perdu, sans piété, sans loi, sans espérance. La splendeur de l'agapé divine ne brille nulle part ailleurs comme dans la nuit de la croix, au moment où le silence de Dieu se fait le plus épais. Ce silence n'est pas seulement le sommet de la révélation, il est le lieu où se donne à entendre toute la révélation. Il faut savoir écouter ce silence, où germe et grandit, comme l'aube au bout de la nuit, la seule question essentielle : qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?